Il est 19h sur BAC FM 106.1. Bonsoir si vous nous rejoignez et rebonjour à tous les autres qui nous suivez depuis le début de la journée. Vous avez écouté l'émission Prévence, votre émission 100% santé, où je reçois des spécialistes pour nous parler de sujets importants et peut-être mieux comprendre comment notre corps marche. Nous sommes en novembre, c'est-à-dire en plein mois sans tabac, et que vous soyez fumeur ou non, je suis sûr que ce que nos invités ont à dire va vous intéresser. Je reçois par téléphone Françoise Amelot, directrice de l'association Tabagir, bonjour.
Bonjour.
Et à mon micro, mon invité également, c'est Hermès, infirmier scolaire au lycée Rolf Olro. Bonjour.
Bonjour.
Et j'ai également avec moi deux élèves du lycée Rolf Olro qui viennent nous partager leur expérience. Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous d'être avec moi sur la radio BAC FM. Alors ma première question, elle est pour vous, Françoise Amelot. Est-ce que vous pouvez déjà présenter l'association Tabagir pour les gens qui ne situeraient pas ce que c'est ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Tabagir, c'est une association qui œuvre dans la prévention et l'aide à l'arrêt du tabac. Donc on intervient sur le département de Lyon et de la Nièvre auprès de jeunes, souvent en établissement scolaire ou en institut médico-éducatif, des jeunes en réinsertion également, pour les accompagner et faire en sorte qu'ils ne commencent pas à fumer, à se laisser tenter par cette cigarette. Et puis enfin, on a tout un réseau de professionnels sur votre territoire qui est la Nièvre, comme sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, de prescripteurs, médecins, infirmières, sages-femmes, diététiciens et psychologues pour accompagner les fumeurs vers l'arrêt du tabac.
Du coup, je suppose que votre association a plusieurs choses de prévues pour le mois sans tabac ?
Ah oui, on a pas mal d'actions. On a des actions sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. On a également des actions sur la Nièvre. Et donc, on a tout un programme pour l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté où on intervient au plus proche de la population.
Je me tourne vers toi, Hermès. Est-ce que t'as un peu une idée de ce que fume aujourd'hui les lycéens? Est-ce que ça reste la cigarette classique, j'ai envie de dire? Ou est-ce qu'ils se tournent plutôt vers la puff ou vers la vapoteuse, ce genre de choses?
Alors, les usages ont bien changé. C'est sûr que devant les lycées, il y a moins l'attroupement de fumeurs de tabac. Et on voit davantage de fumeurs de e-cigarettes. Et je pense qu'il y a quand même une réduction des jeunes fumeurs de tabac. Après, la e-cigarette, ça reste quand même un phénomène qui prend de l'ampleur.
E-cigarette, cigarette électronique, c'est la même chose pour les gens qui nous écoutent. Okay.
Oui,
et je suppose que c'est pas pour autant que les usages changent que c'est tout aussi dangereux la e-cigarette que la cigarette classique, quoi.
Elle est moins nocive. Mmh. Il y a quand même 4000 éléments toxiques dans la cigarette. Il y en a beaucoup moins dans la cigarette électronique. C'est pour ça aussi qu'il y a un discours qui la rend moins nocive, qui accentue sur ce côté moins nocif, mais pourtant pas inoffensif. Et surtout, on met en avant le fait qu'elle aide au sevrage tabagique. Ce qui peut être le cas, mais pour autant, elle peut être utilisée comme une cigarette et les consommations aussi peuvent être beaucoup plus inquiétantes parce qu'il y a une facilité à fumer la puff, alors qu'il y a quand même certaines contraintes pour fumer la cigarette tabac. Voilà.
Je me tourne vers vous, chers élèves. Alors, je vous appelle élève ou étudiante parce que vous tenez à rester anonyme, je tiens à le préciser. Alors, vous fumez vous-même. Qu'est-ce que vous observez entre vous, vos potes? C'est plutôt de la cigarette normale? Est-ce que c'est plutôt de la puff?
Pour moi, du coup, oui, je fume. Je fume du tabac et des puffs. Mais c'est vrai que maintenant, toutes les personnes que je connais quasiment fument, mais pas du tabac. Majoritairement, c'est que de la puff. Donc, c'est vrai que maintenant, quand on est devant le lycée ou derrière pour fumer, on voit que pratiquement que de la puff et beaucoup beaucoup plus de gens que quand que avant que les puffs soient devenus aussi à la mode.
Et toi?
Moi c'est pareil, je fume aussi cigarettes électroniques et puff, et mon entourage aussi, pratiquement tout le monde fume au moins la puff, pas forcément des cigarettes, mais puff et cigarettes électroniques.
Qu'est-ce qui vous fait aller vers la puff plutôt que la cigarette classique? C'est une sorte d'effet de mode ou le goût peut-être?
C'est vrai que en fait déjà on peut voir avec le prix qui contrairement au tabac qui est à un peu moins que 12,50€, donc c'est 10€ une puff normale. Et en fait je pense que déjà ça n'a pas l'air d'être un énorme écart, mais ça fait quand même la différence quand par exemple on a qu'un billet de 10 en espèces, on va pas tout de suite penser à prendre un paquet de cigarettes. Et au-delà de ça, évidemment, il y a l'odeur, les couleurs. C'est vrai que c'est vraiment un marketing visé pour les jeunes environ de 16 à 18. Mais malheureusement, il y en a qui tombent dedans bien plus jeunes. Et même la marque la plus connue de Puff à la base, c'était R et M, comme Rick et Morty. Et c'est vrai que déjà la série, elle est très connue pour être proche des jeunes, en majorité des jeunes presque adultes. Et pour finir, il y a quand même eu, dans les dernières années, le problème avec le tabac, où il avait été, comme la puff, dans un marketing vraiment où on prônait un peu l'utilisation de la cigarette. Depuis, il y a eu une grosse diabolisation de la cigarette, ce qui n'est pas négatif, mais le problème, c'est que du coup, à côté de ça, on refait le marketing de l'usage de la cigarette électronique, comme on a fait le marketing du tabac et comme on a prôné l'usage du tabac. Et le problème, c'est que du coup, ça se répète et on se pose pas, nous les jeunes, on se pose pas forcément la question que c'est le même problème en fait. C'est juste l'histoire qui se répète une deuxième fois.
Françoise Amelot, vous, à votre niveau, vous voyez la montée de la puff ?
Alors, je suis déjà... je voulais dire par rapport à ces deux témoignages, je suis ravie qu'on puisse échanger en direct aussi avec des jeunes personnes qui consomment. Et justement sur la partie marketing, parce que en fait c'est ça en fait la difficulté chez les jeunes, c'est le marketing, c'est ce que vient d'expliquer le deuxième témoin ou deuxième, je fais pas trop le distinguo comme je suis au téléphone. Le marketing des cigarettiers, c'est ça. Le lobby des cigarettiers, il est lourd. Et tout ce qu'ils veulent, eux, c'est des nouvelles bouches. Donc, quand on constate effectivement une baisse de la consommation de tabac chez les jeunes, on parle bien du tabac. Ensuite, on a mis en place l'interdiction de vente des puffs parce que c'était une porte ouverte justement à cette jeunesse et qui, avec un outil de marketing, parce qu'ils s'appuient sur des séries, etc. Ils font tout ce qu'il faut en fait pour que ça soit attrayant pour les jeunes. Et ils ont des moyens hallucinants, contrairement aux moyens dédiés à la prévention. Et forcément, ça attire les jeunes. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que donc on a une baisse de la prévalence du tabagisme chez les jeunes. Ça veut dire qu'il y a moins de jeunes qui fument. Par ailleurs, il y en a de plus en plus qui prennent la cigarette électronique ou les puffs. Okay ? Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que sur les puffs, si vous permettez, peut-être que je vais trop loin en répondant à la question, c'est qu'il y a des quantités de nicotine très importantes. Ce qui fait que les jeunes vont s'habituer à une quantité de nicotine importante et il y a un moment, ils vont basculer sur le tabagisme. Et c'est ça toute la difficulté. Et quand on fume et qu'on consomme de la cigarette électronique, on ne diminue pas les risques. Parce que comme l'a dit Hermès, l'infirmier, effectivement, quand on arrête le tabac, qu'on passe qu'à la cigarette électronique, là, on va diminuer les risques parce que quand on fume, il y a plus de 4000 substances nocives, etc. Et quand on est à la cigarette électronique, on peut avoir quelques substances, dont la nicotine. Mais c'est pas ce qui est la plus dangereuse. OK? Et le souci avec les puffs chez les jeunes, c'est qu'il y a des taux de nicotine très importants et ils peuvent tirer dessus beaucoup, ce qui fait qu'ils vont développer leur dépendance à cette nicotine. Et souvent, il y a des seuils, en fait, hein, et on va aller encore plus loin, et puis jusqu'au moment où on va passer à la cigarette.
Hermès, je reviens vers toi. S'il y a un élève qui désire arrêter la puff, arrêter la cigarette, est-ce qu'il peut venir te voir pour avoir peut-être des clés, quoi ?
Ben oui, bien sûr, hein, l'infirmier scolaire, c'est une première, je dirais, aide possible, une première ressource. Après, c'est sûr que on va questionner un peu ses représentations et ses motivations et puis l'accompagner aussi vers justement des professionnels qui vont l'accompagner vers ça, donc tabagir. Pour autant, ça reste vraiment très marginal hein, en termes je dirais sur les consultations, sur le lycée, c'est vraiment très marginal.
Il y a pas mal d'élèves qui se mettent à fumer, alors soit par effet de mode, on en parlait un petit peu en off, soit par le stress des examens, par exemple. On sait que l'anxiété et la santé mentale est un vrai problème chez les jeunes, lycéens ou étudiants d'ailleurs. Comment on fait pour leur proposer des solutions ? Donc on les accompagne vers des professionnels ?
Justement, le tabac, souvent dans les consultations avec les élèves, il apparaît dans un second temps. est souvent liée à cette question d'anxiété. Et les élèves utilisent le tabac comme stratégie de coping pour faire face à cette anxiété. Pour autant, ils ont l'impression de diminuer leur stress. Mais en fait, ça vient masquer le stress et sur le long terme, en fait, ça vient augmenter l'anxiété. Une cigarette, immédiatement, vous prenez la tension après une cigarette. Voilà, la tension, elle a monté. Hein.
Je me tourne vers vous. Comment vous avez commencé à fumer? Votre première clope, c'était par envie d'essayer ou par avec vos potes? Comment ça s'est passé en fait?
Oui, moi, c'était parce que ma sœur est beaucoup plus grande que moi et je la voyais souvent fumer. Donc, c'est arrivé qu'elle m'ait proposé de fumer de temps en temps. Et après, quand je suis arrivée au lycée, du coup, j'ai des amis qui fumaient. Et puis, juste vu que j'avais déjà essayé, bah, je voulais recommencer. Et donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à vraiment fumer.
Pour moi, c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis rentrée au lycée, j'ai commencé à fumer des cigarettes parce que... plein de gens autour de moi, des amis à moi, je savais même pas qui fumait, ils me disaient viens tout à l'heure à la pause, et moi je savais pas où c'était, et au final du coup on m'a emmené à la pause pour fumer, et c'est vrai que plus les jours ont commencé à passer, plus j'ai commencé à avoir envie d'essayer aussi, et puis en vrai petit à petit c'est passé très vite pour moi, hein. Sachant que en plus chez moi, ma famille elle fume autour de moi, et puis du coup comme ils l'ont vite appris, j'ai rapidement commencé à être une consommatrice très régulière, quoi.
C'est quasi ritualisé en fait, il y a un coin clope, il y a une pause. Françoise Amelot, au niveau de l'accompagnement que Tabagère propose, comment ça se passe en fait? C'est des groupes individuels, des groupes ou un accompagnement individuel? Est-ce qu'il y a des ateliers? Comment ça fonctionne?
Alors c'est un accompagnement individuel. Donc ce qu'il faut quand même savoir avant toute chose, c'est que la moitié des fumeurs peuvent arrêter seuls. Ça c'est déjà il faut quand même le savoir. Dans le cadre du mois sans tabac, c'est aussi ça, c'est d'avoir cette force, cet élan national avec de l'encouragement, avec des messages, avec des applications qui font que des gens vont essayer d'arrêter de fumer. Et c'est bien d'essayer de se challenger, de voir où est-ce que je me situe avec le tabac. Est-ce que je suis vraiment très très dépendant, moyennement dépendant ou peu dépendant? Le fait de se challenger, de se lancer le défi sur le mois sans tabac, je trouve que c'est déjà un bon essai. Ensuite, donc pour les personnes qui n'y arrivent pas seules, il y a bien évidemment des accompagnements. Et donc cet accompagnement, nous on propose un accompagnement pluridisciplinaire, c'est-à-dire des consultations médicales, on s'appuie sur les recommandations nationales. Donc tous nos professionnels sont formés à la tabacologie. Donc ce sont des consultations qui sont vraiment dédiées à la consultation de tabacologie. On travaille sur le dossier national, donc il y a tout un petit historique, une petite réflexion de la part du fumeur à faire avec ce dossier. Et puis lors de la consultation, s'il y a besoin, le patient peut bénéficier de 4 consultations gratuites en TCC. Alors les TCC, c'est pas un gros mot, c'est les thérapies comportementales et cognitives. En fait, on est dépendant physiquement à la nicotine qui se trouve dans la cigarette ou dans les cigarettes électroniques. Et puis, on peut avoir aussi différents types de dépendance. Donc, une dépendance psychologique, une dépendance comportementale. Et parfois, suivant les fumeurs, on a ces dépendances qui sont fortes. Par exemple, chez certains fumeurs de cigarettes électroniques, ils vont prendre la cigarette électronique énormément de fois dans la journée. Cette gestuelle est très, très forte et ensuite, c'est compliqué de s'en défaire. Donc, on a la consultation médicale suivant... les besoins du patient, le patient peut bénéficier de 4 consultations avec un psychologue qui est formé aussi à la tabacologie et aux thérapies comportementales et cognitives. Et puis le troisième accompagnement, c'est l'accompagnement diététique. Parce que souvent, on va dire la majorité de nos patients bénéficient de consultations diététiques, toujours 4 consultations prises en charge directement par Tabagir. On est financé par l'Agence régionale de santé, donc ça évite aux patients de payer les consultations en diététique et en TCC, et donc ça évite de reprendre la cigarette et de prendre du poids, même si c'est pas quelque chose de systématique, la prise de poids. Mais chez certains patients, ça peut être un facteur important dans leur arrêt du tabac.
Je me rappelle d'une interview avec un de vos collègues il y a quelques années, qui disait qu'il fallait en moyenne 7 tentatives pour un Français d'arrêter la clope. Donc ça, le chiffre est toujours valide aujourd'hui?
Oui, on fait en moyenne entre 5 et 7 tentatives d'arrêt pour arrêter définitivement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent du jour au lendemain, puis d'autres, ça va être beaucoup plus long.
Vous le savez, Bac FM, c'est une radio lycéenne, comme son nom l'indique. J'ai avec moi d'ailleurs deux lycéennes. Est-ce que c'est plus dur d'arrêter quand on est jeune ou je suppose que aussi c'est très dur d'arrêter quand on fume depuis 20, 30 ans?
Alors, ça dépend à quel âge on a commencé. Si on a 18 ans et qu'on a commencé à 10, 12 ans, c'est compliqué parce que plus on va commencer jeune, plus la dépendance s'est installée sur un organisme qui n'a pas fini de grandir, pour faire simple. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que les patients chez qui c'est le plus difficile d'arrêter de fumer, ce sont les patients qui ont commencé très jeunes. Et donc, si on a commencé à 12, 14 ans, ça va être compliqué. Si c'est une consommation régulière, c'est, effectivement, on peut être très dépendant même si on est jeune.
Hermès, comment on fait pour rassurer un élève qui hésite à demander de l'aide ou qui veut juste des informations? Parce qu'il y a souvent peut-être une peur des regards des autres, et peut-être même familiale, on n'ose pas dire à ses parents qu'on fume. Comment on fait pour les rassurer, ces gens-là?
Je pense que déjà, il faut être à l'écoute. Et il y a déjà une difficulté hein, de la part du, alors là, je dis du patient, mais aussi de l'élève, à pouvoir confier hein, le fait qu'il fume hein, au soignant, parce que tout de suite, on pense que le soignant va être assez culpabilisant par rapport à ce comportement-là. Pourtant, les soignants sont particulièrement touchés hein, par la consommation de tabac, mais ça, c'est un autre problème. Mais voilà, donc déjà, il y a un premier pas à franchir pour partager cette information avec le médecin, parce que des fois aussi, c'est ça, hein, il y a un traitement qui est en place, il y a des problématiques de santé qui ont été évoquées avec le médecin, mais pour autant, le médecin n'a pas cette information qui fait quand même partie de la compréhension de la situation de la personne, malgré tout.
J'ai une question encore pour vous. Je ne sais même pas comment je peux vous appeler étudiante. Je ne sais pas si c'est le bon mot lycéenne, en tout cas. Est-ce que vous essayez d'arrêter de fumer ou pas du tout? Qui veut commencer?
Moi, personnellement, pour l'instant, je ne veux pas arrêter de fumer. Je sais que je le ferai un jour, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas non plus mon grand projet. Après, j'essaierai quand même de... Enfin, à l'heure actuelle, il faut quand même que j'essaye de diminuer, histoire que, quand même, financièrement, je puisse subvenir, entre guillemets, à mes besoins. Mais en soi, non, j'ai pas trop comme projet d'arrêter pour l'instant.
Ok, et toi?
Moi, les cigarettes, ça va, j'en fume que très rarement, mais c'est la puff. J'ai pris l'habitude de la fumer vraiment tout le temps. Et ça, c'est un problème, donc je ne cherche pas forcément à arrêter pour le moment, mais au moins diminuer.
Tu veux dire que c'est devenu un réflexe, en fait?
Oui.
Ok. Françoise Amelot, on dit souvent que les premiers jours pour arrêter la cigarette, la puff, sont les plus durs. Est-ce qu'il y a des réflexes à avoir, disons, les 30, les 60 premiers jours?
Alors, c'est le premier mois, là, les 30 premiers jours qui sont plus difficiles. C'est pour ça que le challenge du mois sans tabac, c'est on essaie d'arrêter un mois. Et si on a arrêté un mois, on a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Donc, les premiers jours, ça dépend, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire les tests, de s'inscrire sur le site Tabac Info Service, de recevoir son petit guide de préparation, ça s'appelle un kit hein, de préparation et d'accompagnement à l'arrêt du tabac. En tout cas, sur ce dispositif-là, je challenge, parce que ça nous permet aussi de voir où on en est avec le tabac. C'est-à-dire que quand on est jeune, alors non, c'est ce qu'on appelle le cycle de Prochaska, hein, donc ça c'est en tabacologie, on situe un petit peu notre fumeur dans différents cycles de sa vie avec le tabac. Donc quand on est jeune, on est plutôt un fumeur heureux, donc on n'envisage pas du tout l'arrêt du tabac. Ou alors on se dit oui, bah plus tard, hein, parce que voilà, on n'a aucun intérêt. Et à partir du moment où on se pose la question, on a essayé au moins une fois de réduire, de réduire, mais toujours pas dans la réduction pour faire des économies d'argent, mais de réduire parce qu'on a en tête l'arrêt du tabac quelque part, d'accord? C'est différent. Et donc là, on change de stade. En fait, il y a différents stades et donc ça change aussi la motivation. Et il faut bien évidemment travailler sa motivation. Pourquoi je veux arrêter de fumer? Qu'est-ce que j'attends de cet arrêt du tabac? Les côtés positifs? Quels sont aussi les côtés négatifs de ma consommation du tabac? Et voilà. Et on va essayer de remplir, on va dire, la balance du côté positif arrêt du tabac avec tous les arguments qu'on a en tête et qui nous tiennent à cœur pour faire basculer cette balance vers l'arrêt du tabac. Après, si on est dépendant, les traitements, ça fonctionne bien. Hein. Rien que des patchs ou des pastilles pour remplacer la nicotine, ça permet d'enlever le manque. Il ne faut pas oublier que le tabac, c'est une drogue et c'est une drogue dure. Donc forcément, si une personne fume tous les jours... C'est une drogue dure. Elle est en vente libre, mais c'est une drogue dure. Il faut savoir que si du jour au lendemain on vous supprime la nicotine, bah forcément ça va coincer un peu des dents, quoi. Hein. Et donc surtout si on la prend depuis longtemps et qu'on a des doses régulières, etc. Donc ça c'est des choses qu'on peut prendre. Et puis même, alors soit on va consulter, soit on peut aller voir son pharmacien. On lui dit bah voilà, je prends à peu près, je consomme tant de cigarettes par jour, et le pharmacien peut vous donner une première idée. L'avantage nous en tabacologie, c'est qu'on utilise le CO testeur. Ça nous permet de tester, c'est dans un appareil, le fumeur souffle dans un appareil, c'est pas un test de souffle, mais c'est vraiment on mesure le taux de monoxyde de carbone expiré, c'est-à-dire que quand on fume pas, on n'en a pas, et quand on fume, on a un taux qui est plus ou moins important, qui correspond à nos niveaux d'intoxication. Et derrière, ça nous aide à ajuster le traitement médicamenteux, enfin en tout cas les traitements de patch, etc. Donc ça, c'est important.
Les solutions que vous évoquez, elles marchent aussi bien pour la cigarette que pour la puff?
Alors, pour le CO testeur, ça ne fonctionne pas parce que c'est le monoxyde de carbone expiré, il n'y en a pas dans la puff. Pour autant, on calcule, oui, effectivement, le nombre de nicotines qui sont ingérées par le vapoteur et on essaye d'ajuster au mieux. En fait, l'idée et le plus difficile, c'est de bien ajuster le traitement pour que le patient ne soit pas en manque. Parce que le manque, il est là. Ce qu'on appelle le craving, c'est un manque impérieux, un besoin impérieux de fumer ou de vapoter parce qu'il nous faut notre dose de nicotine.
Les chiffres montrent qu'au niveau national, ça marche quand même. Les jeunes, alors les moins de 30 ans, hein, pour faire large au niveau des jeunes, fument moins, ils boivent moins aussi d'ailleurs. Il y a une meilleure hygiène de vie peut-être globale. Pour vous, c'est une réussite, je suppose ?
Ah, alors la baisse du tabagisme, c'est clair que c'est une réussite. Il faut pas oublier que le tabac, alors j'aime pas trop parler en négatif, mais c'est la première cause de mortalité évitable. C'est-à-dire que si on supprime le tabac, on sauve 75 000 personnes par an. Bon, celles qui ont commencé, c'est cuit, si je puis dire, mais quand même. Donc il faut pas oublier que c'est la première cause de mortalité évitable, c'est le tabac.
Merci Françoise Amelot, merci Hermès, merci aux élèves d'avoir répondu à mes questions.
Plaisir
partagé. Si jamais des lycéens du lycée Raoul Follereau nous écoutent, alors votre cabinet Hermès, est, alors je ne sais pas si on dit cabinet même, votre...
Oui, l'infirmerie.
L'infirmerie, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Votre infirmerie, elle est ouverte comment si jamais du coup ça intéresse des gens d'avoir des infos là-dessus?
Ah bah, elle est ouverte le matin dès 7h45 jusqu'à 17h45. Mmh. Et le mercredi et le vendredi, elle est fermée à partir de midi et demi.
Au niveau très local, du coup, ça concerne les élèves du Cerro Follereau, Jules Renard, Jean Rostand, comment?
Alors, il y a trois infirmiers sur le campus. Il y a Madame Sauer pour le lycée Jules Renard, donc moi pour le lycée Raoul Follereau, et Madame Drouin pour le lycée Jean Rostand.
Merci d'avoir été avec nous. Merci également, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous invite à rester à l'écoute de la radio Bac FM, la radio qui va haut et fort.